Bien, bonjour à tous. Dans le cadre donc du cours que je donne cette année sur les parfums dans l'Antiquité, j'ai prévu d'alterner les cours et les séminaires, et lors des séminaires d'inviter quelques collègues qui travaillent sur des domaines connexes ou carrément dans le domaine lui-même. Comme vous l'imaginez, on ne peut plus travailler aujourd'hui en archéologie, et singulièrement en archéologie de la production, où on travaille sur des liquides notamment, sans avoir l'appui de chimistes et de botanistes. Et c'est la raison pour laquelle il m'a paru essentiel d'inviter d'emblée un chimiste en qui j'ai une très grande confiance, qui a travaillé pour plusieurs programmes d'analyse sur les contenants de parfums, notamment les flacons, mais aussi quelques cuves, comme nous le verrons tout à l'heure. Il s'agit du docteur Nicolas Garnier, et qui, malgré son jeune âge, il a à peine 35 ans ou 36 ans, a une très longue expérience en la matière. Commencé très jeune, puisque c'est quasiment un athlète de la chimie. Il a participé aux Olympiades de la chimie dans sa jeunesse. Et il a été formé en chimie, et notamment en chimie organique, dans une maison qui est très proche d'un point de vue géographique du Collège de France, et très proche également d'un point de vue organisationnel, puisque désormais nous faisons partie du même groupe qui s'appelle Paris Sciences et Lettres, et je veux parler donc de l'École Normale Supérieure. Il a ensuite passé une thèse de doctorat, toujours en chimie organique, et particulièrement adaptée aux analyses de contenants archéologiques, et principalement d'amphores qui avaient été trouvées dans des épaves à Pise. Et je me souviens que cette soutenance de thèse était extrêmement brillante et tout à fait intéressante. Et ensuite, il a travaillé directement comme chef d'entreprise, en fondant son propre laboratoire et travaillant avec un assez grand nombre d'institutions qui s'occupent d'archéologie en Orient et en Occident. L'École Normale Supérieure, bien entendu, donc, chez laquelle il a gardé des liens, nos collègues de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et en province, le Centre Camille Julian, et à l'étranger, le Centre Jean Bérard, que j'ai longtemps dirigé, mais aussi l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth et à Damas, car vous le verrez, évidemment, les analyses doivent porter aussi, et peut-être principalement, sur les vestiges trouvés en Orient. Donc il est auteur d'un assez grand nombre d'articles dans des revues scientifiques, et il a beaucoup collaboré avec des programmes de recherche de l'ANR, dans lesquels nous sommes côtoyés, et notamment récemment un programme qui vient de se finir, qui s'appelait Peramo, dirigé par Dominique Frère, et dans le programme actuel dans lequel nous sommes impliqués tous les deux, avec Dominique Frère également, qui s'appelle Magie, et qui donc recherche les matières organiques dans les contenants pour les identifier. Mais je ne voudrais pas prendre trop de temps pour cette présentation, et je crois qu'il faut rentrer dans le vif du sujet, et qu'il nous montre comment les progrès récents de l'instrumentation et de l'approche analytique et de la méthodologie a bouleversé ces 15 dernières années nos connaissances et notre approche. Et je pense que ce n'est que le début de cette révolution. Je lui laisse la parole.
Merci Jean-Pierre et bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité pour ce séminaire. Et donc, ce sera l'occasion de présenter, de faire un historique un petit peu de toutes les analyses chimiques qui ont été faites depuis à peu près un siècle sur les résidus de parfums trouvés en contexte archéologique et puis de présenter à la fin de mon exposé les résultats de notre programme de recherche, donc PERAMO, sur l'identification des parfums. Alors, je ferai tout d'abord une introduction vous présentant ce qu'est l'archéologie biomoléculaire, une discipline assez récente qui mêle la chimie et l'archéologie. Puis je vous montrerai comment les analyses ont évolué depuis la moitié du 19e siècle et quels résultats ont pu être obtenus. Et enfin, je traiterai quelques exemples, notamment sur les analyses et les identifications de résines végétales. Et puis, donc, à partir du programme PERAMO, des exemples d'identification de parfums retrouvés pendant les périodes étrusques et phéniciennes. Donc, tout d'abord, l'archéologie biomoléculaire. Elle s'intéresse à différents types d'objets retrouvés en contexte archéologique. Donc, lors des fouilles, outre toutes les structures, on retrouve un certain nombre d'objets, et notamment des objets organiques, donc des bois, des charbons, des os qui ont aussi une fraction minérale, des graines, des phytolithes ou sphérolithes et des pollens. Tout ceci, en fait, ce sont des matériaux que l'on peut étudier et identifier par les approches naturalistes. C'est-à-dire qu'on peut les regarder au microscope, on observe et on identifie des formes qui nous permettent de remonter à l'origine végétale. Et puis, il y a des objets entiers ou fragmentaires, constitués donc soit de céramique, de pierre, de verre, des récipients en os aussi, ou en coquillage. Et ces objets, on n'en voit en fait que la forme, mais généralement, on n'a aucune trace du contenu. Donc, le but de ces études, ça va être de faire parler ces objets au maximum et non plus de s'intéresser seulement au contenant et à sa forme, sa typologie, mais aussi à ce qu'il a pu contenir. Le problème est que ces résidus sont souvent invisibles à l'œil nu et on ne sait absolument pas comment les aborder. Donc tous ces matériaux, c'est ce que l'on appelle les matériaux organiques amorphes, qui contrairement aux premiers, les matériaux structurés ou les biomatériaux, ne peuvent pas être identifiés par les méthodes naturalistes, c'est-à-dire à quelque échelle que vous les regardiez au microscope, optique ou électronique, vous ne verrez jamais rien. Il faut descendre au niveau chimique, au niveau moléculaire. Alors, ces matériaux organiques amorphes sont soit amorphes à l'origine, ce sont tous les matériaux fluides, liquides ou mous, par exemple les cires, les huiles, donc vous les avez ici, les matériaux organiques. Donc ils sont amorphes à l'origine et ils sont plus ou moins conservés et au moment de la fouille, vous les retrouvez forcément à l'état amorphe. Mais il y a aussi certains matériaux structurés, organiques à l'origine, qui soit par action de l'homme, c'est-à-dire que le matériau a été traité, chauffé, mélangé à d'autres, il a suivi tout un processus d'élaboration et ce matériau a perdu sa structure et il n'en reste qu'une fraction amorphe. Et donc vous avez ces deux sources de matériaux qui peuvent être retrouvés en contexte archéologique. Donc on voit déjà ici se profiler qu'on a à l'origine un matériau biologique qui a suivi l'action de l'homme, puis est resté 2000 ou 3000 ans enfoui, donc a subi l'action de l'environnement. Et c'est ce matériau complètement transformé et décomposé et dégradé que l'on va retrouver. Alors, ces matériaux organiques sont soit d'origine animale, soit d'origine végétale. On peut retrouver des matériaux bruts, qui seront quasiment identiques à ceux que l'on retrouve à partir des arbres, donc les gommes résines, les oléorésines ou encore les pollens. Bon, là, je fais un petit aparté, sachant que les pollens ont une structure. Du côté animal, vous avez comme produit brut le sang, la viande, tous les produits laitiers et les produits de la ruche, le miel, la propolis ou le pain d'abeille dont je parlerai tout à l'heure. Les matériaux peuvent être extraits à partir des plantes, donc seule une fraction de la plante est utilisée, comme les huiles ou les colorants, ou pour les animaux, par exemple, la cire d'abeille. Et ces produits peuvent être ensuite transformés par l'homme. Par exemple, les résines ou les bois peuvent être chauffés pour obtenir des goudrons, des brais, les céréales, des pains et des galettes, ou les fruits, des boissons fermentées. Concernant les animaux, vous avez production des colorants, par exemple, à partir des murex, des fromages à partir des produits laitiers ou des cols protéiques à partir des tissus conjonctifs, des os et des nerfs, par exemple. Et puis, des matériaux que l'on dit fossiles parce que très anciens, comme l'ambre et le bitume. Donc voilà à peu près un sommaire de tous les matériaux organiques amorphes que l'on est susceptible de retrouver. Alors, ces matériaux sont organiques, naturels. C'est, alors, organique, ça veut dire des matériaux constitués de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. En moindre proportion, on retrouve de l'azote, du phosphore et du soufre. Comme tous les matériaux naturels, ils sont extrêmement complexes. Il y en a des milliers, voire des millions, que l'on peut classer en différentes familles chimiques, les lipides, les glucides, les protéines, que tout le monde connaît au niveau de l'alimentation. À ces familles, je rajouterai les polyphénols, qu'on appelle les tanins, les polynucléotides, c'est tout ce qui touche à l'ADN, et les alcaloïdes, donc dans le domaine des drogues. Voilà à peu près les six familles chimiques. Alors, comment relier la chimie constitutive d'un matériau à l'identité de ce matériau ? Donc, ici, en haut du tableau, j'ai marqué les différents matériaux naturels, donc les résines, exsudats végétaux, la viande, les produits laitiers, les produits de la ruche, les produits de la mer et les fossiles. Et à gauche, donc les différentes familles chimiques, les lipides, les protéines, les sucres, les tanins, les polynucléotides et les alcaloïdes. Donc, on va voir dans les différents matériaux quelles familles chimiques on est susceptible de retrouver. Alors, les triglycérides se retrouvent essentiellement dans tous les produits gras animaux, donc la viande, les produits laitiers, les fromages, beurre, crème. Alors, je fais tout de suite un aparté. En chimie, on n'est pas capable de différencier ces trois types de produits. On parlera toujours de produits laitiers. Et puis, ces triglycérides, on les retrouve aussi dans les huiles et les huiles végétales. Et tous les dérivés du poisson. Donc ces triglycérides, j'en parlerai plus tard, je vous présente la formule générale. Tri, parce qu'ils sont constitués de trois acides gras, ces grandes chaînes carbonées, et glycérides, parce qu'ils sont formés autour d'un squelette glycérol. Ensuite, on a les cérides. Ce sont toujours des matériaux hydrophobes que l'on retrouve principalement dans la cire d'abeille et dans les goudrons. Donc une formule un peu similaire aux triglycérides avec un acide gras à longue chaîne et un alcool à longue chaîne à la place du glycérol. Ensuite, les stérols. Donc on les retrouve dans les matières grasses animales et aussi les huiles végétales. Ils sont d'origine animale comme le cholestérol à 27 atomes de carbone. Et si on rallonge la chaîne ici, à 29 atomes de carbone, on tombe dans les phytostérols, c'est-à-dire tous les stérols végétaux. Donc le cholestérol origine animale, les phytostérols origine végétale. Ensuite, les terpènes. Principalement, on retrouve en contexte archéologique les 10 terpènes à 20 atomes de carbone comme celui-ci, présentant ce type de squelette, ou à 30 atomes de carbone provenant des espèces feuillues, ici la fridoline provenant du chêne. Et ces molécules se dégradent, notamment ces parties-là, par traitement thermique pour former ce que l'on appelle les hydrocarbures polyaromatiques que l'on retrouve dans les goudrons végétaux, les brais et aussi les bitumes. Donc là, vous en avez deux exemples. Une poix provenant de conifères contient du rétène et un bitume par décomposition des espèces feuillues contiendra cette espèce-là, un opane. Passons à la famille des protéines. Donc les protéines sont des macromolécules que vous voyez ici à droite, qui sont un assemblage de chaînes, elles-mêmes constituées par des hélices ou des rubans. Et le squelette de ces hélices est en fait un enchaînement d'acides aminés, donc il y en a 21. Comme pour les lettres de l'alphabet, la succession, l'enchaînement des acides aminés, comme des lettres de l'alphabet, forment des mots. Donc les peptides qui eux-mêmes forment les protéines. Donc c'est ce type de molécules qu'on est susceptible de retrouver essentiellement dans les viandes et les produits laitiers ainsi que les produits de la mer provenant du poisson, donc toutes les espèces à forte teneur protéique. Les sucres, c'est essentiellement formé à partir de glucose et de fructose. Là, vous voyez un sucre avec un trisaccharide, parce qu'il y a 3 unités de sucre. Ce sucre est typique du miel. Et a priori, tant que l'on n'aura pas retrouvé cette molécule dans un miel archéologique, on ne pourra pas vraiment dire que l'on a vraiment du miel. Pour l'instant, on le verra plus tard. On ne réfléchit que par des indices indirects de produits de la ruche. Donc, quand ils sont polymérisés et ramifiés, on obtient des macromolécules de type cellulose que l'on retrouve dans tous les bois et qui contaminent tous les échantillons. Enfin, les tanins, donc les polyphénols de ce type-là, se retrouvent dans tous les fruits, notamment le raisin, et ça sera un marqueur du vin. Les polynucléotides, c'est toute la branche, la discipline de la paléogénétique, donc la recherche de l'ADN, que je n'aborderai pas du tout ici, parce que c'est une discipline à part entière. Et les alcaloïdes, eux, n'ont jamais été recherchés pour l'instant en contexte archéologique. Donc vous voyez à peu près la complexité face à laquelle on est. On a énormément de familles chimiques et il faut essayer de remonter à l'origine animale ou végétale. Donc comment est-ce que l'on peut s'y prendre ? Est-ce que l'on essaie de rechercher le maximum de marqueurs ? Ou alors, est-ce que l'on cible, on a une idée, est-ce que l'on recherche de la poix, est-ce que l'on recherche de l'huile d'olive, et auquel cas, on va cibler l'analyse et le protocole pour essayer de faire ressortir ces molécules-là. Donc, deux approches différentes. Alors, la matière organique que l'on retrouve en contexte archéologique n'a généralement pas grand-chose à voir avec celle des matériaux actuels, parce qu'elle est entièrement, elle est très dégradée, parce que la matière organique, elle évolue au cours du temps. Vous mettez par exemple votre nourriture au frigo pour éviter qu'elle se décompose et qu'elle évolue. En archéologie, la matière organique n'est pas mise au frigo ni au congélateur, donc elle a subi 2000 ans de dégradation dans des contextes ouverts, donc sujette à toutes les actions des micro-organismes, des bactéries, du sol, etc. Et cette matière organique évolue à différentes vitesses en fonction des familles chimiques auxquelles on a affaire. Alors celles qui se conservent le mieux, donc qui sont le moins sensibles aux attaques des micro-organismes, ce sont les molécules hydrophobes, tout ce qui est hydrocarbures, c'est-à-dire les pétroles et les pétroles, et les terpènes, donc que l'on retrouve dans les goudrons végétaux et les bitumes. Et puis, les molécules plus polaires, que sont les protéines, les tanins ou les sucres, eux sont très sensibles, notamment aux réactions d'hydrolyse et d'oxydation, et vont rapidement disparaître au cours du temps. Donc, dans des céramiques, on va essentiellement retrouver ces deux classes de molécules, et les autres à titre plus exceptionnel. Et pour compliquer la chose, on ne peut pas prévoir comment la matière organique va se dégrader. On ne peut faire aucun modèle parce que la matière organique est extrêmement complexe, elle peut réagir de différentes façons, il y a énormément de facteurs qui peuvent intervenir, la température du milieu, le pH, l'oxydoréduction, la composition du sol et tout l'environnement composé des micro-organismes. Alors par exemple, ici, sur ce diagramme, vous avez en abscisse la quantité d'eau du milieu, c'est-à-dire l'activité de l'eau. À gauche, les milieux secs, à droite, les milieux humides. Et on voit qu'il y a différents processus qui vont se passer à différentes vitesses. En milieu aride, seule une réaction de dégradation, c'est l'oxydation des lipides. Et puis après, interviennent le brunissement non enzymatique, l'activité des enzymes, des champignons, des levures et des bactéries. Et quand on est en milieu humide, tous ces phénomènes s'additionnent pour dégrader la matière organique. Alors cependant, un contexte très favorable à la conservation de matière organique, ce sont les sites lacustres, parce que certes ils sont humides, mais ils sont totalement anaérobies, c'est-à-dire que dans les eaux et les sédiments, il n'y a aucune trace d'oxygène, ce qui fait qu'il n'y a aucune vie possible. Donc vous ne trouverez aucun micro-organisme, aucun champignon, aucune levure, donc il n'y aura pas de dégradation de matière organique. Et ce petit tableau résume les réactions auxquelles sont sensibles les différentes familles chimiques. Donc vous voyez les lipides, les triglycérides sont surtout sensibles à l'hydrolyse, à l'action de l'eau. Les cérides, Les cires, elles, sont assez bien conservées. Les stérols, eux aussi, ne sont sensibles qu'à des petites réactions d'oxydation et au chauffage, qui peut être dû à l'homme. Les terpènes, par contre, eux, sont assez sensibles au chauffage. Et les protéines et les sucres, par contre, sont sensibles à toutes les réactions chimiques, d'où leur perte assez rapide. Donc, en résumé, on peut dire que ces matériaux organiques que l'on va rechercher sont de nature extrêmement complexe parce que ce sont des matériaux naturels constitués de milliers, voire de millions de molécules. D'autre part, ils se dégradent, ils s'oxydent et à partir de petites molécules, ils s'enchaînent pour former des macromolécules, des polymères, ce qui va poser énormément de problèmes au niveau analytique. Et ces matériaux ont subi l'action de l'homme, ont subi des réactions de dégradation pendant les 2000 ans d'enfouissement. L'homme a pu aussi les mélanger pour aboutir à certaines recettes. Et d'autre part, contrairement à la matière minérale que l'on voit, en organique, on ne sait jamais sur quelle concentration on travaille. On est dans le domaine de l'invisible, donc sur des micro-quantités, on est au-dessous du milligramme, souvent autour du microgramme pour faire des analyses. Donc, avec toutes ces données, on voit que l'analyse organique de tels matériaux pose un réel défi aux chimistes. Et on se trouve au carrefour de différentes disciplines, la phytochimie, la pharmacognosie, la botanique. Mais ces disciplines traitent des matériaux modernes et il va falloir tout transposer aux matériaux anciens et dégradés. Donc, c'est l'objet de cette discipline, l'archéologie biomoléculaire. Donc, que peut-on attendre de cette discipline ? Tout d'abord, extraire une information qui n'a quasiment jamais été exploitée parce que la matière ne se voyait pas. Donc, on ne s'intéressait qu'aux contenants de nature minérale. On peut rechercher la matière organique sous différents aspects, soit des résidus invisibles déposés en dépôt fin à l'intérieur des vases, soit de la matière organique qui a pénétré à l'intérieur des parois, ce qu'on appelle les imprégnations. Et au niveau des informations que l'on peut obtenir à partir de la chimie, c'est l'identification du contenu originel, donc des sources animales, sources végétales, et éventuellement avoir des éléments sur la transformation qu'a fait subir l'homme à ces matériaux. Et ensuite, toutes ces données doivent être recontextualisées dans un travail qui associe les chimistes, les botanistes et les archéologues, où toutes les hypothèses des archéologues sont confrontées aux données chimiques qui sont elles-mêmes validées par les botanistes. Donc, suivant les matériaux et les contextes que l'on étudie, on peut avoir des informations très intéressantes sur les échanges commerciaux, les matières échangées et utilisées pour des cérémonies religieuses, funéraires, des cérémonies officielles ou encore dans le cadre domestique. Et puis nous verrons que ces matériaux, généralement dans le contexte funéraire, ont vraiment une portée symbolique extrêmement importante. Donc dans cette deuxième partie, je tracerai rapidement un historique des analyses qui ont été effectuées depuis le milieu du 19e siècle. Donc, dans les années 1850, la chimie était encore assez peu développée au niveau analytique et les principaux chercheurs à la pointe des recherches, c'était notamment le grand chimiste Chevreul, donc qui est le découvreur des acides gras, et il est le premier à s'être intéressé à l'analyse des matériaux organiques retrouvés en contexte archéologique, et il a fait quelques analyses en utilisant des tests très simples, des tests physico-chimiques. Puis en 1926, on avait accès à des premières mesures physiques de points de fusion et d'ébullition, ce sont les travaux qu'on va voir de Chapman, et c'est seulement à partir des années 76-80 que réellement l'archéologie moléculaire a commencé à apparaître avec le développement de techniques analytiques performantes, donc la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse. Alors tout d'abord, les travaux de Chevreul reposent sur l'analyse du matériel retrouvé dans une tombe en Vendée, fouillée par Fillon. Et donc cette tombe découverte en 1848 à Saint-Mandard-des-Prés, montrait autour d'un squelette un ensemble de 40 vases en verre conservés, de 3 coffrets en bois, et quelques-uns de ces vases en verre, des balsamères, contenaient encore des matières oléagineuses et résineuses, peu altérées, et Fillon, lors de la fouille, trouvait que ces matériaux dégageaient une odeur parfumée lorsqu'ils étaient brûlés. Ces échantillons sont passés entre les mains du chimiste Chevreul, qui s'y est intéressé parce que c'était la première fois qu'on trouvait des échantillons qui dégageaient encore une odeur après 1500 ans d'enfouissement. Donc les premiers tests qu'il a faits, c'était des tests physiques de dissolution dans l'eau et dans l'alcool, et à partir du contenu de ces différents balsamères, donc vous voyez qu'ils sont entièrement remplis de résine ou de poids, on ne sait pas trop. Et il a pu différencier une fraction soluble à l'alcool et une fraction insoluble. Cette fraction insoluble, il l'a ensuite distillée pour obtenir un produit acide à l'odeur pyriteuse. Donc il en a déduit que ça ressemblait à la composition d'un goudron. Et donc de son rapport d'analyse, il parlait d'un mélange extrêmement complexe constitué de deux acides, l'acide margarique et l'acide oléique. Ce sont des acides à 17 et 18 atomes de carbone. Or, les acides gras ont été découverts qu'une trentaine d'années auparavant, et on n'avait pas encore une bonne connaissance de la thermodynamique et de ce qui se passait quand on avait un mélange de molécules pendant la fusion du mélange. Et il y a eu une petite erreur d'appréciation. En fait, ce n'était pas de l'acide margarique, qui est assez rare dans la nature, mais de l'acide palmitique, donc un mélange d'acide palmitique et stéarique. C'est un mélange que l'on retrouve extrêmement souvent dans les analyses, comme on va le voir plus tard. Et donc, vous voyez, après, il a fait un deuxième type d'extraction, de traitement, avec de l'eau bouillante, puis de l'alcool froid, puis de l'alcool chaud, donc pour arriver à identifier la cire d'abeille par son point de fusion à 64 degrés, et puis un produit acide qui fondait à 28 degrés, qui était un mélange d'acide stéarique et palmitique. Donc on peut, les données étaient très bien publiées, et avec ce que l'on sait actuellement, on peut les réinterpréter en intégrant tous les principes de la thermodynamique découverts depuis. Deuxième exemple, en 1926, lors de la découverte de la tombe de Toutankhamon, dans l'antichambre, il y avait une grande quantité de matériaux, des matériaux organiques. Donc vous voyez ici la liste. Et donc au niveau organique, on retrouve essentiellement des vêtements et des restes végétaux. Ce sont les matériaux qui vont nous intéresser le plus. C'est ceux qui ont attiré l'œil des archéologues. Mais on peut trouver des matériaux, des résidus organiques dans d'autres types d'objets, des ustensiles, les objets cosmétiques, les momies humaines, tout le matériel, les lampes donc liées à l'éclairage, les bandelettes de momies et aussi la vaisselle qui a pu garder des traces d'un quelconque contenu. Donc vous voyez ici des exemples. Un vase en calcite, on retrouvait un mélange de cire et de résine qui avait gardé encore les traces du fouilleur qui avait mis ses doigts dedans. Vous avez ici une statue de Pharaon avec tout cet enduit noir, brillant, bitumineux qui est un matériau organique. Et ce vase, cette lampe en calcite qui, elle, a été analysée par Chapman en 1926. Donc c'est vraiment le premier article de chimie qui traite des matériaux organiques archéologiques au Journal of the Chemical Society. Et Chapman est allé un peu plus loin que Chevreul et a caractérisé la matière organique en travaillant sur des quantités énormes, plus de 100 à 120 grammes, de substances visqueuses jaunes. Et à l'odeur, il a pu observer une odeur de genêt, de coco, de valériane, qui en fait est due à la décomposition naturelle des huiles végétales, mais que lui a interprété comme plutôt une huile de coco, une huile de palme. Donc il a fait différents tests de solubilité comme avait fait Chevreul. Il a mesuré la quantité de glycérol et puis aussi des analyses qui sont couramment faites sur les huiles à l'heure actuelle, les indices d'acidité et le nombre d'iodes pour savoir si l'huile est insaturée ou pas. Alors voilà ce dont je vous parlais, l'odeur de genêt, à quoi elle est due. Dans les huiles, vous avez de l'acide oléique qui comprend ici une insaturation. Et cette insaturation est très sensible aux réactions d'oxydation. Et sous l'action de l'oxygène, elle peut se couper, donc entre les carbones 9 et 10, pour donner deux molécules. Et il se trouve que ces molécules ont une odeur très parfumée. Et pour celle-ci, donc l'acide pélargonique, on retrouve une petite odeur de genêt qui a mené en erreur Chapman. Ensuite, il a essayé de chercher d'autres molécules. Donc, il avait une très grande connaissance de la constitution chimique des graisses et des huiles. Et notamment, il s'est intéressé au stérol. On va le voir qu'il représente à peu près 1% de la matière organique dans les huiles. Mais il n'a pu identifier ni cholestérol ni phytostérol. Et ses conclusions ont été très sages. Il a pu dire que, en l'état des analyses et des données chimiques qui ont pu être obtenues, la nature de la graisse ne peut pas être avancée et on ne peut même pas dire si l'origine est animale ou végétale. Donc, il a pu dire simplement qu'il était en présence d'un composé cireux en faisant l'hypothèse d'une graisse animale en fonction des teneurs en trioléine que l'on retrouvera tout à l'heure dans l'huile d'olive. Et donc, avec ses odeurs de coco et de genêt, il pensait à une huile de coco ou une huile de palme. Et voilà le résultat, c'est à peu près 80% de graisse animale et 10% de résine ou de baume à partir des différentes analyses menées. Ensuite, il y a eu un grand blanc et rien ne s'est fait jusqu'en 1976. Et là, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet et en vous présentant comment on analyse la matière organique et les résidus de parfum qui restent encore dans les céramiques. Donc, la première étape est de séparer la matière minérale et la matière organique. Donc, pour cela, soit on prend un tesson, un petit fragment du vase que l'on broie, que l'on extrait ensuite par des solvants organiques. La matière organique se dissout et emporté par le solvant et par centrifugation, on sépare la phase organique, donc solvant plus extrait, de la phase non soluble qui est constituée essentiellement de la céramique, du verre, du métal ou de la pierre par exemple. Donc là ici vous voyez ce qui reste de la céramique broyée et puis les extraits en solution. Généralement, ils sont de composition très complexe et nécessitent une étape de purification sur des petites cartouches que vous voyez ici en blanc et rouge qui permettent de séparer les différentes familles chimiques, donc par exemple les hydrocarbures, les triglycérides, les stérols et les acides gras. Donc on aura 4 fractions à analyser au lieu d'une, mais plus simple. Ensuite, une fois qu'on a obtenu cet extrait, donc c'était ces 4 petits flacons, 1 microlitre de l'extrait est pris et injecté dans ce que l'on appelle un chromatographe en phase gazeuse. Et la chromatographie en phase gazeuse, donc que je noterai GC par la suite, est une technique séparative qui permet de séparer les molécules à partir d'un mélange complexe. Ici, vous avez ce que l'on appelle un chromatogramme en abscisse, le temps de rétention en minutes, c'est-à-dire le temps d'analyse. Et en ordonnée, vous avez l'intensité des pics, c'est-à-dire la concentration des molécules qui sont dans l'échantillon. Donc à gauche, on se place à basse température et au cours de l'analyse, on augmente la température de la colonne, du four, permettant donc de volatiliser progressivement les molécules de plus en plus lourdes. Donc le chromatogramme nous montre ici 3 pics. C'est le seul résultat que l'on peut obtenir de la chromatographie en phase gazeuse. Pour identifier véritablement les molécules, il faut coupler cette technique à ce que l'on appelle la spectrométrie de masse, qui est une technique structurale, c'est-à-dire qui donne accès à la structure des molécules. Et là, si l'on prend ce pic ici, donc le 16-0, le spectre de masse obtenu est celui-ci, et vous voyez ici donc un pic à 270 et des petits fragments, Et en étudiant tous ces pics moléculaires et fragments, on arrive à reconstituer la molécule. Donc 270 correspond à la molécule en entier et qui se casse le long de la chaîne carbonée pour donner tous ces fragments à 74, 87, etc. Donc en faisant ce travail sur chacun des pics, vous voyez différents spectres. Donc ici l'acide palmitique, ici l'acide stéarique à 18 atomes de carbone, l'acide oléique à 18 atomes de carbone et une double liaison, et ici l'acide azélaïque qui est en fait le produit de dégradation de l'acide oléique. Donc voilà ici un chromatogramme extrêmement simple avec seulement 4 composés qui généralement n'arrivent jamais en contexte archéologique. Alors, cette technique a été mise en œuvre par Françoise Formenty, qui est en fait la chimiste pionnière pour toutes les analyses organiques de matériaux anciens. Elle s'est intéressée en 1976 à l'étude d'amphores à huile, les amphores Dressel-20. Donc là, on est en limite des parfums, mais quand même, l'huile d'olive était utilisée comme base pour les parfums. Et son identification est assez intéressante. Donc à l'époque, elle est partie de 200 grammes de tesson et en traitant l'échantillon de la manière que je vous ai exposé, elle a obtenu un extrait organique qui a été analysé par chromatographie en phase gazeuse et a donné donc 4 pics, le pic numéro 4 étant identifié comme de l'acide oléique. Alors à l'heure actuelle, on peut se demander quelle est la valeur de ce résultat dans ces amphores à huile, elle a trouvé de l'acide oléique. Alors en effet, l'huile d'olive est constituée de triglycérides à 99%. Ces triglycérides, donc, ce sont ceux-ci, la molécule que j'ai présentée au début de mon exposé. Et une analyse en chromatographie en phase, pas gazeuse, mais liquide, parce que ces composés sont peu volatiles, nous montre la composition suivante en triglycérides d'huile d'olive, où on a le plus grand, qui est la trioléine, constituée de 3 acides oléiques. Et puis, vous avez toute une panoplie d'autres triglycérides. Donc, on voit déjà que l'huile d'olive n'est pas constituée d'une molécule, mais à peu près d'une dizaine. Et par hydrolyse de ces échantillons, de cette huile, pardon, on obtient bien, en effet, de l'acide oléique à 75%, mais aussi d'autres acides, de l'acide palmitique, de l'acide stéarique. Alors, le fait de trouver de l'acide oléique dans une amphore à huile, même si elle est dite à huile, est-ce que c'est vraiment un argument chimique suffisant pour dire que c'était de l'huile d'olive ? En fait, non, parce qu'il y a un petit problème de raisonnement, un problème logique, car si l'on regarde où est-ce que l'on retrouve l'acide oléique dans la nature, on en a dans l'huile d'olive, on en a dans toutes les huiles végétales, dans toutes les graisses animales, mais aussi dans les cires animales et végétales. Donc, le fait de trouver de l'acide oléique ne montre pas qu'on a de l'huile d'olive, mais qu'on est en présence d'une huile végétale, voire même d'un corps gras, car le spectre est très très large. Et dire que l'huile d'olive est constituée à 75% d'acide oléique n'implique pas le raisonnement contraire, c'est-à-dire trouver de l'acide oléique n'implique pas que l'on ait de l'huile d'olive à l'origine, mais simplement un corps gras. Donc ces analyses sont tout à fait valables, mais la conclusion porte plus sur des arguments archéologiques qui sont appuyés d'une analyse chimique validant par la découverte de l'acide oléique. Alors, des analyses complémentaires peuvent être faites, notamment des analyses isotopiques du carbone pour mesurer les rapports de carbone 12 et carbone 13. Ces analyses, donc surtout développées par l'équipe anglaise de Richard Evershed, permettent de différencier les différentes sources, certes animales et végétales, mais au sein des animaux, de distinguer les animaux ruminants des non-ruminants, des produits laitiers, et qui sort du diagramme, ici, vous avez encore les cires. Alors, l'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle demande énormément de temps de préparation, les échantillons doivent être extrêmement propres, et d'autre part, ils doivent être injectés à une certaine concentration, on ne peut pas injecter à plus faible ou à plus haute concentration, sinon la mesure isotopique n'est pas valide. Donc, avec les quantités avec lesquels on travaille, de l'ordre du microgramme, il est assez rare de pouvoir mener ce type d'analyse. Donc il faut rechercher l'information ailleurs, et je m'intéresserai au cas de l'huile d'olive, donc le composé le plus courant. Donc on a vu qu'on peut identifier l'huile par ses triglycérides, parce qu'ils représentent plus de 99% des molécules constitutives de l'huile d'olive. Donc l'analyse est la suivante. L'huile d'olive est purifiée pour n'obtenir que la fraction des triglycérides et puis une fraction de stérol. Donc eux, ils sont présents à 1% dans l'huile. Donc la première fraction, la fraction verte de stérol, peut être analysée en chromatographie en phase gazeuse. Vous voyez ici le massif des stérols. Et une deuxième analyse de la fraction ici orange montre ce profil de triglycérides avec les numéros 54, 52, 50 qui correspondent au nombre d'atomes de carbone constitutifs des triglycérides. Donc ça, c'est déjà une première information, le nombre de carbone du triglycéride. Par contre, ça n'apporte pas beaucoup d'informations. Et on va voir qu'on peut aller un peu plus loin en s'intéressant aux techniques de spectrométrie de masse. Celle-ci s'appelle l'électrospray. On s'affranchit de l'étape de chromatographie et l'échantillon est directement injecté dans le spectromètre de masse pour obtenir ce spectre-là. Donc là, vous avez un zoom et vous avez donc la masse des composés. Et à partir de la masse, vous avez non seulement le nombre d'atomes de carbone, donc ECN, 54, 52, 50, mais aussi le nombre d'insaturations, c'est-à-dire de doubles liaisons, 3, 2 et 2 ici. Donc vous avez une information qui commence à devenir de plus en plus précise. Et pour identifier complètement de l'huile, cette information ne suffit pas encore. Alors la seule chose que l'on peut déduire à ce stade de l'analyse, c'est une distinction des huiles végétales, des produits laitiers et des graisses animales. Donc ici, j'ai pu analyser, donc en collaboration avec l'Université de Lille, différentes huiles végétales, et vous voyez un profil assez simple avec un voire deux pics, à part l'huile de laurier qui est un peu plus complexe et l'huile de ricin que vous voyez ici. Donc les huiles végétales sont constituées par des profils assez resserrés. Les produits laitiers, par contre, montrent un profil de triglycérides extrêmement large dû à une grande distribution d'acide gras, non plus à 16 et 18 atomes de carbone, mais de 4 à 18. Donc d'où cette distribution beaucoup plus large. Et les graisses animales montrent un profil intermédiaire, vous voyez avec à peu près 5 ou 6 massifs, et il est intéressant pour les trois premiers profils de noter qu'on a des petits pics intermédiaires correspondant à des molécules à nombre impair d'atomes de carbone qui correspondent en fait aux ruminants. Donc par cette méthode d'analyse par électrospray, on distingue les huiles végétales, profil étroit, les produits laitiers, profil large, les graisses animales, produits intermédiaires, et en présence des pics intermédiaires impairs, on peut dire qu'on a affaire à des matières grasses de ruminants. Alors un exemple d'application, c'est pour l'identification des combustibles dans les lampes, où à partir d'une seule molécule conservée, on peut, dans certains cas, remonter à l'origine de l'huile. Donc vous voyez que précédemment, je reviens ici, vous voyez ici un pic, donc c'est ce pic majoritaire auquel je m'intéresse et que je sélectionne et que je vais fragmenter dans le spectromètre de masse dans une deuxième analyse pour obtenir le spectre de fragmentation, celui-ci. Et vous voyez ici la comparaison d'un échantillon moderne à droite de sésame et d'un échantillon archéologique. Donc l'échantillon moderne est très propre, l'échantillon archéologique montre un bruit de fond très important. Et cependant, si on s'intéresse à ce massif et qu'on les compare, on voit qu'ils sont parfaitement cohérents. Et donc cette technique a permis, dans ce cas-là, d'identifier que le combustible de la lampe était une huile végétale et dans ce cas-là, une huile de sésame, qui est venue appuyer les textes de Strabon, notamment, concernant l'agriculture nabatéenne et les espèces qui étaient cultivées autour de Pétra, parce qu'il n'y avait pas d'olive et on se demandait quel combustible pouvait être utilisé. Alors, le problème est quand la matière organique est très dégradée, notamment hydrolysée, comment on peut identifier une huile ? Parce que tous les triglycérides ont disparu, sont soit devenus des acides gras, soit ont été complètement lessivés, comme on va le voir dans ce cas. Donc on va s'intéresser à une famille chimique de composés mineurs, les stérols et les triterpènes. Donc pour mettre au point toutes ces techniques, tous ces protocoles et les valider, on est obligé de travailler sur des échantillons authentiques dans lesquels on est à peu près certain qu'on avait de l'huile d'olive. Donc là, on s'est intéressé à une série d'amphores Dressel 20 et African 1, donc provenant de Bétique et d'Afrique du Nord essentiellement, un travail mené avec Tony Silvino sur les fouilles du parc Saint-Georges et Dario Bernal Casasola à Cadix, et les fouilles d'Arles aussi. Donc notamment à Arles, dans le lit du Rhône, ont été trouvés différents fragments d'amphores Dressel 20, donc les amphores de Bétique, les amphores à huile. Et là, vous voyez le profil chromatographique de deux amphores, complètement différents. Pourtant, elles ont été retrouvées côte à côte et elles avaient exactement le même contenu à l'origine de l'huile d'olive. Donc, dans le premier cas, on voit des acides gras, ici, les deux grands pics, et un massif de triterpènes et de stérols. Dans le deuxième cas, on n'a plus que les stérols et les triterpènes parce que les acides gras ont complètement été lessivés par les eaux du Rhône pendant 2000 ans. Donc là, on voit bien que la conservation n'est absolument pas modélisable et ne peut pas être prédite. On est dans le même contexte, on a les mêmes amphores et pourtant on a deux profils qui sont complètement différents. Donc on va s'intéresser aux molécules qui sont conservées, les stérols et les triterpènes. Et là, en faisant une analyse donc de chromatographie couplée à la spectrométrie de masse, on peut identifier une vingtaine de constituants, des stérols et des triterpènes. Donc l'analyse est assez complexe, les molécules identifiées aussi, mais par association de tous ces triterpènes, maintenant, on peut dire qu'on a affaire véritablement à une huile d'olive, avec les marqueurs natifs notés en vert et les marqueurs de dégradation. Donc vous voyez que ce travail de mise au point des protocoles et de validation est extrêmement long et peut demander des années. Donc on a pu mettre au point une méthodologie d'analyse assez complexe où l'échantillon est prélevé et analysé pour déterminer déjà s'il contient de la matière organique ou non, s'il en contient, quelles familles chimiques sont présentes, des acides gras, des stérols, des terpènes, des tanins, des sucres, des acides aminés. Et en fonction des molécules, des familles chimiques pardon, qui sont identifiées, on reprend l'échantillon, on le traite d'une certaine façon, on lui fait subir un protocole adapté à la recherche des triglycérides, des stérols, des acides gras, etc. Et ensuite, ces échantillons sont analysés par des techniques qui, elles aussi, sont adaptées, essentiellement de spectrométrie de masse. Et le résultat est qu'on arrive à identifier les huiles, les résines, les gommes, etc. Alors, pour résumer, donc l'archéologie biomoléculaire donc est un outil qui permet aux archéologues d'avancer dans leurs recherches, mais en amont, il faut extrêmement bien définir les questions. Donc, quelle est la problématique archéologique ? Qu'est-ce que l'on veut savoir ? Combien d'échantillons on veut analyser, si c'est une analyse ponctuelle ou toute une série ? Et bien choisir les objets en fonction des intérêts archéologiques, mais aussi de la conservation que l'on peut envisager. Il faut aussi, avant le prélèvement, énormément regarder l'objet, si jamais il n'y a pas eu de traces d'utilisation ou différents types de résidus. Donc, par objet, on peut être mené à faire plusieurs types de prélèvements. Et puis, confronter les résultats chimiques à d'autres sources, donc les sources textuelles, mais aussi tout ce qui peut être issu des études botaniques. Ensuite, le prélèvement sur site ou au musée est adapté à la fois à l'objet, savoir si c'est un objet qui est fragmentaire ou un objet précieux entier en verre ou en or, et suivant si l'on a des résidus visibles ou des imprégnations, on ne fera pas le même type de prélèvement. Ensuite, l'analyse est conduite au laboratoire, comme je vous l'ai dit, et ensuite, tous les résultats sont recontextualisés et confrontés aux hypothèses des archéologues et validés par les connaissances des botanistes. Donc voilà dans le cadre à peu près dans lequel on travaille. Donc, je vais passer aux exemples précisément et notamment à l'analyse des résines dans trois cas. Donc, tout d'abord, la tombe de Saint-Médard-des-Prés en Vendée qu'avait analysé Chevreul. Donc, c'est une tombe du IIe siècle après Jésus-Christ extrêmement riche. Vous voyez l'ensemble du matériel qui est conservé aujourd'hui au musée de Fontenay-le-Comte et que nous avons pu étudier. Donc, ces six objets en verre montraient un résidu pour ces quatre-là et aucun résidu visible pour ces deux bouteilles en verre. L'analyse organique a montré, je ne vous montrerai pas les chromatogrammes, mais juste les conclusions, a montré uniquement des cires végétales dans ces deux bouteilles en verre. Aucune trace de matière organique, d'acide gras, comme ça a pu être le cas dans les quatre objets donc, provenant de la même tombe. On voit donc que c'est assez bizarre de trouver deux résultats complètement différents. Ici, aucune trace de matière organique pour les flacons en verre, et ici, une très bonne conservation de la matière organique. Donc les cires végétales, et que l'on dit épicuticulaires, c'est-à-dire qui se trouvent sur la cuticule des plantes, donc sur les feuilles et les fleurs, ce sont des cires protectrices pour le végétal qui se conservent extrêmement bien et que l'on retrouve dans quasiment tous les récipients céramiques et verres. Donc l'hypothèse est qu'en fait, ces flacons avaient probablement un contenu, mais depuis leur fouille en 1848, vu qu'ils ont une ouverture qui est quand même un petit peu large, ont été lavés. Du coup, il ne reste plus que les cires qui sont peu solubles. Et ces quatre balsamères montrent des résultats beaucoup plus intéressants. Donc, vous avez ici les chromatogrammes. Vous voyez qu'ils ont des profils absolument différents. Dans le premier, on peut reconnaître une poix de conifère, pardon, ici de l'huile végétale, et on a tous les marqueurs de chauffage de l'huile. Donc, on peut dire que l'huile végétale a été chauffée longuement jusqu'à obtenir une sorte de pâte que l'on retrouve à l'heure actuelle sous forme de ces fragments de pois, de résine assez pulvérulents. Le deuxième balsamère contient peut-être des traces de cire d'abeille, tout de moins une cire, mais on n'est pas sûr que ce soit de la cire d'abeille, et aucun stérol, donc ni graisse ni huile. On est en présence d'une préparation à base donc, de cire végétale ou de cire animale, cire d'abeille. Je pencherai plutôt sur l'hypothèse de cire végétale qui est préparée par décoction de feuilles. Donc, les feuilles sont mises à bouillir, la cire est extraite des feuilles, flotte en surface et ainsi on peut récupérer toute une pellicule de cire qui peut être ensuite exploitée pour la fabrication de parfums. Le troisième vase a une très très faible teneur en matière organique, mais on identifie cependant des acides gras qui montreraient la présence de produits laitiers et surtout d'une résine de conifère. Et enfin, le dernier montre un acide gras qui se retrouve assez peu souvent en contexte archéologique, mélangé à une poix de conifère avec tous les marqueurs de chauffage, et il pourrait s'agir donc de pois obtenus à partir de bois. L'acide hydroxypalmitique proviendrait de la subérine, donc à l'origine de la fabrication de la poix, on aurait utilisé un bois et essentiellement l'écorce qui est très riche en subérine. Et cette poix a été mélangée probablement à une huile et cuite. Alors, un autre échantillon que j'avais pu identifier a été retrouvé dans une tombe carthaginoise du 6e-5e siècle par des fouilles amateurs au début du siècle, donc des fouilles de Lucien Fetter, et qui était en mission en Tunisie. Donc c'est une fouille qui se situe donc dans la nécropole de Kerjouan, et l'échantillon que vous voyez ici, deux petits blocs de 3 cm à peu près, sont conservés au musée Fragonard à Grasse. Et ce qui a intéressé le conservateur, intrigué, c'est que cet échantillon développait une très forte odeur balsamique, et la piste était que c'était une résine de schiste. Donc, Nous avons mené les recherches avec notre collègue botaniste, Elisabeth Daudinet, pour essayer de définir quels pouvaient être les candidats et d'où pouvait être tirée cette résine. Donc les candidats cystes étaient les suivants, le cyste crétois, le cyste à feuilles de sauge, le cyste à feuilles de laurier, le cystus populifolius, le cyste de Montpellier et surtout le cyste ladanifère, qui est le cyste qui produit le plus de résine. Donc la récolte est assez amusante. Ce sont les boucs et les chèvres qui paissent dans le maquis, qui en fait passent entre les plants de cyste et se récupèrent toutes les boulettes de résine qui restent accrochées à leurs poils. Donc la collecte du cyste ne consiste pas à aller cueillir directement la résine sur le cyste, mais à brosser les poils des boucs. Donc c'est une récolte assez intéressante. Le problème est que ces espèces sont assez mal décrites d'un point de vue phytochimique, et donc on a dû faire appel à des botanistes pour cueillir des échantillons authentifiés et analyser chimiquement, par nos protocoles archéologiques, les différentes espèces. Et là, vous pouvez voir la comparaison de deux chromatogrammes. En haut, la boulette de résine donc provenant de la tombe. Et ici, une huile essentielle de cyste ladanifère. Vous voyez, les composés les plus volatiles disparaissent par évaporation. Il reste ceci. Mais quand même, à l'état de trace, on a une trentaine de composés de l'huile essentielle de cyste ladanifère qui se retrouve dans notre échantillon archéologique. Mais le problème est qu'on est à l'identification du genre, le cyste, mais pas de l'espèce. Donc on a essayé d'aller un peu plus loin par un protocole complexe avec des séparations entre les fractions acides, neutres, etc. pour obtenir ce type de chromatogramme. Donc je passe sur les détails. On s'intéresse à une famille chimique donnée, les acides labdaniques, donc tous les labdanes sont propres aux cystes, et on voit trois pics intéressants dans l'échantillon archéologique qui se retrouvent dans deux échantillons de cystes ladanifères. Donc il faut aussi étudier la variabilité en fonction des régions, les stations dans lesquelles on va cueillir le cyste, l'influence du sol et aussi des saisons qui influent sur la composition chimique des résines. Et donc par la spectrométrie de masse, on a pu identifier dans l'échantillon archéologique tous les acides labdaniques qui sont bien spécifiques du cyste ladanifère. Donc en conclusion de cette analyse, dans la fraction volatile, on a une trentaine de composés communs à l'huile essentielle de cyste ladanifère et on a toutes les associations d'acides labdénoïques, labdénol, labden, que l'on retrouve dans le cyste ladanifère. Donc cette résine était bien du cyste ladanifère, et on peut dire aussi, comme on a retrouvé ni acide gras, ni stérol, ni cire, qu'on avait affaire à de la résine brute qui n'a jamais été mélangée à d'autres matériaux type huile, graisse ou cire. Je passerai à cet exemple. Donc nous sommes en banlieue de Tours, des fouilles qui ont eu lieu à la fin de l'année 2011, et c'était lors de la construction d'une plateforme pour le tramway de Tours. Les archéologues ont fouillé les fondations d'une ancienne église paroissiale qui a été démontée en 1868 et plus de 420 tombes ont été identifiées. Donc le cimetière a été utilisé en continu du 8e siècle jusqu'au début du 19e siècle. Donc parmi ces 420 tombes, 10 de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne présentaient, donc à côté des ossements, des charbons de bois, mais aussi des fragments de céramique, comme vous voyez là, des céramiques que l'on appelle coupes à encens. Mais elles sont appelées depuis toujours coupes à encens, sans avoir véritablement de preuves qu'elles ont contenu de l'encens. Donc nous sommes intéressés à l'analyse du contenu de ces céramiques qui ne présentaient aucun résidu visible. Vous avez une photo ici de ce qui a été analysé. Donc on s'est intéressé juste à la matière organique imprégnée à l'intérieur des parois, donc aux imprégnations. Et on a un massif assez complexe. On voit ici aucun acide gras, aucun stérol, mais que des triterpènes. Donc, pour pouvoir identifier tous les différents pics, on a dû purifier les échantillons comme pour le cyste et obtenu deux fractions, vous voyez beaucoup plus simples, qui nous ont permis d'identifier, ça je passerai, des marqueurs de l'encens. Alors après, le problème est d'identifier quel encens. Donc l'encens, au sens botanique, c'est les Boswellia. Et on a trois candidats. Donc le Boswellia sacra, qui s'appelle aussi Carteri, que l'on appelle au Liban ou en anglais frankincense, qui pousse dans toute la région somalienne, éthiopienne et de la côte sud de la péninsule arabique, donc essentiellement les vallées de la Dramaout et la zone du Dofar. Donc on peut avoir comme candidat cet encens, qui est le plus précieux, l'encens, le Boswellia freireana, qui pousse essentiellement dans les montagnes et les zones d'altitude humides de la Corne de l'Afrique. Les stations de la péninsule arabique ne sont pas sûres. Et le troisième candidat est le Boswellia serrata, dont on connaît quelques stations au pied de l'Himalaya, dans le Pendjab. Donc c'est assez difficile de présenter toute la zone, mais on a des stations sur à peu près toute l'Inde du Nord jusqu'à à peu près cette zone-là. Donc les échantillons modernes ont été cueillis par des botanistes, identifiés, et on a comparé l'échantillon archéologique que vous voyez ici à l'échantillon moderne de Boswellia sacra pour les fractions acides et pour les fractions neutres. Donc le travail a été fait pour les fractions acides et l'on identifie les acides boswelliques, donc du Boswellia, et aussi un produit d'oxydation. Et le travail sur les fractions neutres est en cours parce qu'il y a assez peu de données qui ont été publiées en pharmacochimie ou en phytochimie sur ce type de molécules. Néanmoins, les résultats que l'on peut tirer de l'analyse de la fraction acide, donc la présence d'acide boswellique montre qu'on en est en présence d'une espèce Boswellia. L'espèce serrata peut être éliminée, l'espèce freireana aussi, parce qu'elle est pauvre en acide bêta-boswellique, celui-ci, mais riche en épilupéole. Donc il reste une espèce, c'est le Boswellia sacra, qui correspond bien au bon chromatogramme. Donc on voit que dans ces céramiques qui étaient déposées avec le mort, dans ces tombes donc de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne, on accompagnait le mort avec des fumigations à l'encens provenant du Yémen ou de la Corne de l'Afrique, donc à savoir du Boswellia sacra. Et enfin, dans une dernière partie, j'aborderai un certain nombre d'exemples qui sont tirés du programme de recherche PERAMO. Donc, ce programme ANR avait pour but d'identifier les résidus huileux retrouvés dans des céramiques de la Méditerranée occidentale aux périodes étrusques, phéniciennes et puniques. Donc, les sites étudiés étaient les suivants. On va surtout s'intéresser à cette zone-là, la zone italienne, avec des échantillons provenant des nécropoles de Cerveteri, des nécropoles de Sabine, Farra Sabina et Magliano, des échantillons de la conservés à la Villa Giulia provenant de Cerveteri, ainsi qu'en Sardaigne, donc des échantillons provenant des villes grecques de Taros et d'Olbia, et quelques échantillons de Carbonia et de Santadi au sud de la Sardaigne. Donc, ce qui nous a intéressé, c'est une série de céramiques, notamment les Ascoï et les gourdes du pèlerin. Donc, ces problématiques-là vous seront présentées, je pense, dans deux séminaires par Dominique Frère, qui présentera beaucoup plus clairement, d'un point de vue archéologique, les problématiques de notre programme PERAMO. Donc, nous nous sommes intéressés à ce type de céramique, donc prélevé au musée d'Oristano, à la fois des broquets ascoïdes et des gourdes de pèlerins, et puis toute une série d'échantillons de vases à parfum, donc des alabastres, des aribales de différentes formes, globulaires, piriformes, carénées, des petits vases à parfum nilotiques en faïence ou alors zoomorphes en forme d'hérissons, de sangliers. Et là, vous avez un vase assez extraordinaire qui fait à peu près 8 cm de haut en stéatite, donc en pierre, qui était creusé ici. Donc la contenance est de forme cylindrique. Et au niveau de la décoration, vous avez toute une série de rehauts à la feuille d'or. Donc tous ces échantillons, nous avons pu les prélever et les analyser. Et en Sardaigne, donc des flacons en verre et aussi toute une série de céramiques provenant de tombes phéniciennes. Alors à quoi ressemblaient les résidus à l'intérieur ? Dans de très très rares cas, vous avez des aribales qui sont pleins. Donc ici, vous avez une radiographie d'un aribal montrant tout son contenu. On peut, avec des instruments de dentiste, gratter l'intérieur, les parois, et pour l'un, à Carbonia, donc au sud de la Sardaigne, j'avais pu récupérer ce type de dépôt qui, au microscope, montre un aspect totalement feuilleté par strates. Donc on peut penser que ce vase a eu plusieurs contenus qui se sont solidifiés et ont pris en masse et se sont déposés les uns sur les autres. Comme autre type de dépôt visible, donc vous avez vu tout à l'heure l'exemple de Saint-Médard-des-Prés avec des masses compactes résineuses. Ici, une nœnocoé dont je vais parler avec une sorte de pâte très solide, très dure à l'intérieur, ou encore des balsamères avec des sortes de matières grasses et cireuses. Mais dans tous ces matériaux, il n'y a aucune macrostructure qui est conservée, donc on ne peut absolument pas faire une analyse, une étude naturaliste par microscopie, mais il faut vraiment faire appel à la chimie organique et l'identification des molécules. Et puis, on n'a pas eu la chance d'avoir des balsamères qui avaient toujours un contenu solide. C'est le cas de petits vases en verre entiers, extrêmement fragiles, ou alors ici, vous voyez toute une série de balsamères provenant de la tombe des cinq sièges à Cerveteri, ou d'une tombe voisine, où vous avez des balsamères entiers et aussi des balsamères fragmentaires, avec absolument aucun résidu à l'intérieur. Donc pour ce type d'objet, on ne va pas gratter avec un scalpel, comme il n'y a rien du tout à tirer à part les squames de verre, mais on va nettoyer soigneusement l'objet et faire ensuite des prélèvements à la pipette avec du solvant, un solvant organique extrêmement pur pour ne pas introduire de pollution. Et le dernier type de résidus invisibles, ce sont les imprégnations, donc pour les cruches ascoïdes ou par exemple ce brûle-parfum retrouvé sur le site de Pagny-Lauriga en Sardaigne. Donc le but du programme était d'identifier le contenu, savoir si on avait affaire à des matières végétales, animales ou minérales, pour en déterminer l'usage des parfums, quel était aussi le statut du contenu, est-ce que c'était des matériaux courants ou des matériaux assez extraordinaires, et essayer de tirer des éléments des échanges des matières premières à cette époque-là. Donc ça, c'est des thème que développera Dominique Frère. Donc, à côté de la chimie, on a fait appel à l'équipe de paléogénétique de l'École normale supérieure de Lyon, et les premières fouilles ont été menées, premières campagnes de prélèvement ont été menées en commun, et on a fait à la fois les prélèvements pour l'analyse organique et pour la recherche de l'ADN ancien. Et malheureusement, sur tous les sites présentés ici, il n'y a pas eu de résultat parce que les méthodes de paléogénétique amplifient principalement l'ADN moderne et pas l'ADN ancien. Il faut vraiment opérer sur des vases fermés, scellés, qui n'ont jamais été pollués. Donc ça, c'est l'état de la recherche actuelle, mais qui sera très probablement susceptible de conduire à des résultats beaucoup plus intéressants dans les années à venir. Alors pour faire un bilan de ce programme, on retrouve dans les vases essentiellement des lipides. Donc je vous ai dit que c'était la classe de molécules qui se conservait le mieux. On retrouve des acides gras, des stérols, et ils témoignent de la présence de corps gras dans les différents vases. Donc on a pu identifier des huiles végétales, les discriminer des graisses animales, des produits laitiers et des cires. Donc là, vous avez un profil qui a été obtenu à partir d'un produit laitier. Je passerai. Et alors, au sein des notes... il y a une erreur de titre. Donc toujours sur les corps gras, au sein des huiles végétales, on a pu, dans certains cas, identifier véritablement de l'olive par les triterpènes dont je vous ai parlé tout à l'heure, retrouvés dans les drais salvins, mais aussi de l'huile de benne, le moringa, que j'exposerai juste après. Alors, ces huiles sont probablement le support du parfum qui fixe, qui aide à fixer les principes odorants. On retrouve des graisses animales, qui peuvent être des graisses animales sous-cutanées ou alors des produits laitiers. Alors, deux questions, soit ça a vraiment servi de support au parfum, soit alors c'était un traitement préliminaire du vase. De même pour la cire d'abeille qui a pu servir à l'imperméabilisation du vase, tout comme aussi servir à la technique d'enfleurage. Et les cires végétales, comme j'ai pu retrouver dans les balsamères de Lyon, les fouilles du commandant Charcot, de la rue du commandant Charcot, on avait des grosses concentrations de cire végétale. Donc là, la seule source possible, ce sont les plantes bouillies pour former des décoctions. Alors, un cas très intéressant, c'est l'étude de cette série de petits vases en verre conservés au Musée archéologique national de Cagliari. Et ces vases proviennent des cités de Taros, Nora et Olbia. Et je m'intéresserai à trois vases, le premier, le troisième et le sixième. Donc, ils ne présentaient absolument aucun résidu. Les prélèvements ont été faits au solvant. Et l'extrait dégageait une forte odeur. À sentir le vase, on ne sentait rien. Par contre, l'extrait développait une odeur de menthe assez piquante. Donc, à l'analyse, on a obtenu le chromatogramme suivant et par surprise, un pic très important de camphre. Donc là, le camphre était bien conservé. Le problème est de savoir, dans un premier temps, si c'est une pollution ou si c'était vraiment le contenu du vase. Si c'était une pollution, ça aurait pu être, comme j'ai retrouvé dans de nombreux musées, des produits de désinfection, des autorisations utilisées soit dans les salles de musée, soit dans les réserves. Donc à chaque fois qu'il y a des aérosols qui sont vaporisés, on les retrouve dans les échantillons archéologiques. Donc il y en a plein qui sont aromatisés à la menthe, etc. Donc là, le camphre aurait pu venir de ces produits. Mais si on fait une analyse précise, le camphre existe sous l'état de deux isomères, donc je vais symboliser main gauche, main droite, de forme symétrique. Si on a un produit synthétique, la chimie permet d'obtenir le camphre, mais avec ces deux isomères en même proportion. Si on a un produit naturel, par contre, la nature privilégie un chemin de synthèse, de biosynthèse, et on n'a affaire qu'à un isomère sur les deux. Dans ce cas-là, on n'a qu'un seul isomère à 96% de pureté. Et donc, on peut dire que c'était bien du camphre naturel et pas du camphre synthétique. Donc, probablement, on peut éliminer la piste des pollutions par les projections d'aérosols. Le problème est de savoir quelle est la source botanique. Donc là, c'est tout un raisonnement qu'on a fait avec Elisabeth Daudinet sur quels étaient les candidats susceptibles de répondre à un tel profil et surtout une telle concentration de camphre, avec tous les marqueurs associés, bornéol, camphélanol, etc. Donc les candidats retenus, ce sont les sauges, la sauge officinale, la sauge fructicosa qui pousse en Méditerranée orientale, aussi une espèce d'astéracée, la grande camomille, et une espèce d'achillée, l'achillée monocéphale, qui est en fait une endémie turque. Donc toutes ces plantes présentent de grandes quantités de camphre. Mais on ne pense pas que ce sont ces espèces parce que le camphre serait associé à d'autres terpènes qui, là, ici, sont absents. Alors, dans quelles plantes le camphre est abondant ? Essentiellement, les camphriers. Le problème est que les camphriers donc, poussent surtout dans le domaine indien, ceylanais, donc toute l'Asie du Sud-Est. Mais cependant, Pline l'Ancien en fait référence. Donc, dans son livre 1294, il parle de cinnamomum. Donc, il fait état d'une racine d'un grand pois dans le temple du Palatin Et de cet arbre s'écoulaient des gouttes qui durcissaient en forme de grains. Donc on retrouve une attestation déjà dans Pline l'Ancien d'un cannelier qui pousse dans le domaine indien. Donc les candidats sont le Cinnamomum camphora, c'est-à-dire le cannelier camphrier. C'est une deuxième espèce candidate, mais qui est originaire de Chine. Donc pour l'instant, il est difficile d'envisager une provenance chinoise à cette époque. Et puis, une troisième source, Locotea usambarensis, donc appelé en anglais le camphre est-africain, qui rentre dans la composition du kifi selon des études menées par des archéos et ethnobotanistes. Et dans deux encens, il est mentionné donc, dans les recettes sur les inscriptions du temple de Philée en Égypte. Et le problème est de savoir aussi comment on peut obtenir un camphre aussi pur. Donc normalement, le camphre s'obtient non par distillation, mais par sublimation, qui est une technique un petit peu similaire. Et le problème est que ces techniques n'étaient pas connues à cette époque-là. Donc on peut se demander vraiment quelle est l'origine et comment on pouvait faire... Comment un tel produit a été obtenu avec une telle pureté pour cette époque-là. Donc les analyses chimiques, on voit là, posent énormément de problèmes aux botanistes, mais aussi aux archéologues et aux historiens des sciences. Et puis, dans le sixième vase, ce petit vase donc en verre moulé, on obtient non seulement les composés du camphre, mais aussi deux composés qui sont extrêmement intéressants, le clovandiol et son dérivé d'oxydation, qui n'ont jamais été identifiés en contexte archéologique. Et par examen des sources botaniques, ce composé est très peu répandu dans la nature, mais se retrouve dans les souchets, le Cyperus rotundus et le Cyperus lungus, et ces espèces étaient déjà mentionnées, ont été retrouvées en contexte archéologique en Égypte. Et une deuxième source est que le clovandiol peut être un produit de dégradation du caryophyllène, qui lui est ubiquiste et répandu dans quasiment tous les matériaux, tous les végétaux, mais le clovandiol est formé par le caryophyllène suivant un processus de dégradation très spécifique que l'on retrouve dans la fabrication de la bière. Donc, est-ce que c'est un indice ? Pour l'instant, la bière, vraiment personne ne s'est penché dessus au niveau chimique car c'est un domaine très difficile. Et puis, deux molécules, l'oxyde de manoïle et son isomère, d'épimanoïl. Avec une telle concentration de son isomère, on peut retenir que deux sources, le Juniperus oxycedrus, et là on retrouve le cyste, mais cette fois-ci le cyste crétois. Donc on voit que dans ce petit vase, il y avait une recette extrêmement compliquée, et vous voyez ici des cires épicuticulaires. Donc j'en ai parlé pour Lyon. On retrouve cette matière grasse qui sert certainement de base au parfum. Et on retrouve dans les écrits, notamment dans Pline 15, 25, 31, les mentions de l'utilisation de cire de plante pour faire l'extraction des principes odorants, donc notamment l'utilisation du croton, des feuilles et des fruits de laurier, de myrte, de cédra, de cyprès, de noix carium, de cèdre, des fruits de garou ou encore de lentisque, et qui étaient mis à bouillir, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour en extraire la cire et pouvoir l'utiliser ensuite. Donc vous voyez qu'en fait, par la chimie, à partir d'aucun résidu visible, on peut obtenir énormément d'informations, non seulement sur l'identité des plantes, mais aussi sur les procédés de fabrication, quand ça marche, parce que c'est tout à fait imprévisible et aléatoire. Un autre exemple très intéressant dont vous a parlé Jean-Pierre dans son dernier cours était le baume retrouvé dans un balsamère en albâtre de la tombe de Tana Plecunia. Donc nous sommes à Chiusi, au nord de Rome, et la tombe était celle-ci avec un coffret en pierre intact et à l'intérieur du coffret en pierre, un coffret en bois, tous les nécessaires de toilette et puis cet alabastre en albâtre. Donc, d'après ce que vous avez dit, Jean-Pierre, au cours d'avant, l'alabastre était réputé, tout comme la pierre et le métal, selon Théophraste d'Épline, pour conserver des parfums extrêmement riches et précieux et favoriser leur bonne conservation. Donc, l'analyse du baume nous a donné un profil suivant, assez complexe. Ici, on va dire assez sale et compliqué, qui nécessite des purifications supplémentaires. Donc, par analyse, par électrospray, je vous ai montré la technique pour l'huile d'olive. On ne détecte absolument pas d'huile, mais ici, des cérides qui ne proviennent pas de cire d'abeille, mais de cire végétale. Donc, les analyses qui étaient menées il y a à peu près 20-30 ans, qui permettaient d'analyser des cires par chromatographie en phase gazeuse, aujourd'hui sont remises en question parce qu'on s'intéresse aux cires végétales et par chromatographie en phase gazeuse, cire végétale et cire d'abeille ont exactement le même profil. Et il faut faire appel à la spectrométrie de masse pour bien identifier les molécules une à une et on voit que la cire d'abeille a certaines molécules et les cires végétales en ont d'autres. Donc maintenant, on est capable de distinguer les deux. Alors, par purification, on obtient pour les acides gras le profil suivant avec ces acides hydroxylés qui pourraient être des produits d'oxydation des acides gras palmitiques et oléiques, mais qui n'en sont pas parce qu'ils sont associés à des acides gras de plus longue chaîne et la composition chimique est exactement la même que celle de l'huile de benne, donc c'est le Moringa oleifera, qui pousse à l'heure actuelle au Kenya et dans le nord de la Tanzanie. Alors, cette huile de benne est assez extraordinaire. Donc, vous voyez ici la comparaison avec l'huile de Moringa et le massif d'estérol qui était exactement le même dans l'échantillon de Kiusi et dans cet échantillon de Moringa. Alors, cette huile est assez extraordinaire parce que c'est la seule huile végétale qui est liquide, fluide, mais surtout qui ne s'oxyde pas. Et elle est utilisée notamment par les horlogers à l'heure actuelle encore en Suisse pour graisser tous les mécanismes des montres parce qu'elle ne s'oxyde pas, elle ne rancit pas, elle n'épaissit pas, donc elle est idéale pour graisser tous les mécanismes. Et en allant un peu plus loin, dans les purifications, on obtient un massif de triterpène, celui-ci, donc avec des acides oléanoliques, moroniques, qui sont des marqueurs du mastic, donc la résine de mastic, le pistachia que l'on retrouve dans les îles grecques, essentiellement à Chios. Et dans une autre fraction, on obtient toutes ces molécules-là qui sont en fait des produits de dégradation de cette première molécule, des produits de dégradation thermique. Donc à l'issue de toutes ces analyses, on peut déduire que la composition du baume était la suivante. Une huile de benne mélangée avec de la résine de mastic, donc du pistachier. On ne sait pas exactement l'espèce, probablement le pistachier lentisque. Donc mélangée à du moringa avec quelques graisses de résine animale. Tout ceci a été mélangé et chauffé parce qu'on a à la fois les marqueurs de chauffe des huiles et de la résine. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Plus un petit quelques traces de résine de pinacée aussi. Et enfin, pour finir, nous allons en Sardaigne du Sud, à Carbonia, donc ici, au sud-ouest, pour étudier la nécropole de Montesirai de Sulcis. Donc cette nécropole, vous voyez ici, donc elle domine toute la baie de Sant'Antioco et toute la ville a été construite sur une acropole. Donc vous avez une maquette présentée au musée, les restes des structures avec une reconstitution d'une maison, toute une série de tombes creusées avec les céramiques que nous allons étudier, donc essentiellement des Eunokoé à Bobèche, et puis aussi un Tophet du IVe siècle. Donc, nous intéressons surtout à la tombe numéro 158. Donc, dans cette nécropole, il y avait à la fois des tombes à incinération et à inhumation suivant les périodes. Pour la tombe numéro 158, tout ce matériel-là, céramique, était disponible et plutôt que de s'intéresser à un seul type céramique dans toute la nécropole, on s'est intéressé à tout le contenu céramique d'une seule tombe pour essayer de voir si les céramiques contenaient différents matériaux ou alors un seul. Donc, si l'on reprend la stratigraphie à partir du bas dans la tombe, premièrement, le corps a été incinéré, on a retrouvé les cendres. Dans la strate supérieure, des objets miniatures ont été déposés, donc comme offrande secondaire, notamment cette petite amphorette miniature. Et l'analyse a montré qu'elle contenait des matières grasses animales et végétales, de la résine de pinacée, donc probablement un mélange assez odorant, un baume parfumé qui aurait des dimensions soit médicinales, soit prophylactiques. Au-dessus, on a retrouvé un dépôt de cendres et d'os calcinés dans une partie de la fosse, puis ont été jetées toute une série de céramiques, donc des bols, des tasses, et là on voit, on retrouve toujours des matières grasses animales dans chacun, avec pour certains soit de la cire d'abeille, soit des huiles végétales qui ont été cuites. Donc on voit que toutes les céramiques ont contenu un matériau différent et fabriqué par des recettes différentes. Puis ensuite, on retrouve ici deux œnochoé, une œnochoé et une œnochoé à bobèche. Donc le œnochoé montrait des traces de graisses animales chauffées. Et le plus intéressant était cette œnochoé à bobèche qui montrait un résidu bon, pâteux mais complètement figé qui s'est révélé être de la pâte d'agrumes. Donc tout ça, on a pu l'identifier par une certaine classe de tanins, les flavones qui sont spécifiques du genre citrus. Alors, la tombe est du 5e siècle environ et pose le problème de l'importation des agrumes en Occident. Donc, depuis longtemps, il a été admis que les agrumes avaient été importés par les Arabes au 9e, 10e siècle après Jésus-Christ, depuis la Méditerranée orientale. Mais en fait, on a un certain nombre d'attestations, notamment à Chypre, à l'âge du bronze, à Samos, je ne sais plus exactement la date. Une attestation aussi de Pépin à Cume, mais qui en fait a été republiée et qui s'est révélée être de la pomme et non des citrus. Et puis on se retrouve en Sardaigne donc avec des attestations d'agrumes à cette période-là, grâce non plus à des restes organiques mais structurés des pépins ou des pollens, mais juste par la présence de molécules qui sont spécifiques des citrus. Alors le problème est que par la chimie, on ne peut pas dire quel citrus c'était, si c'était une espèce endémique, une espèce importée. Donc il y a tout un travail d'archéobotanique à faire sur cette question-là. La question est posée. Donc voilà, vous voyez toutes les différentes attestations. Et puis, dans une autre tombe, on a retrouvé une série d'œnochoé, donc trois œnochoé que vous voyez ici. La première, vous voyez, avec un résidu complètement pris en masse qui correspond en fait au négatif de la forme intérieure du vase. Et puis, des résidus sur sa partie droite, ici en gris, et des résidus sur sa partie gauche. Donc, on a fait trois prélèvements pour ce vase et on voit que le contenu pâteux à l'intérieur... je finirai par celui-là, pardon. Le dépôt à l'extérieur sur cette partie-là était constitué de cire d'abeille, de résine de pinacée, avec de faibles quantités de produits laitiers et des traces de feuillus, d'espèces feuillues. Sur cette partie-là, les dépôts gris, on n'a aucun reste organique. Et à l'intérieur, on a un contenu tout à fait original et inédit, avec des graisses animales chauffées, des résines de pin, une faible quantité d'huile végétale et surtout des pics absolument ininterprétables d'éthylamine, d'acide phosphorique, de sucre, d'un stérol appartenant aux champignons, de vitamine E qui se retrouve dans les végétaux. Normalement, ceux-là sont des produits de laboratoire et on les retrouve dans le vase. Donc vous voyez ici le type de raisonnement qui est fait. Et sans cet article publié en chimie dans le journal de chromatographie en 2009, donc une étude des chimistes des pays baltes qui ont étudié ce qu'on appelle le pain d'abeille, le bee bread, sans cette étude, on n'aurait pas pu identifier le matériau. Donc là, vous avez à peu près 80 molécules qui ont été identifiées dans le pain d'abeille. Et en point noir et en point rouge, les molécules que je retrouve aussi dans l'échantillon archéologique. Donc on a quasiment une parfaite corrélation entre le pain d'abeille identifié par les chimistes de la mer Baltique. Et puis, cet échantillon assez extraordinaire, on peut donc dire que le matériau que l'on ne connaissait pas jusqu'alors est bien du pain d'abeille. Alors, le pain d'abeille est l'équivalent de la gelée d'abeille. La gelée d'abeille étant réservée à la reine et le pain d'abeille est la même nourriture, mais pour les ouvrières, pour alimenter les larves. Et quand on confronte tous les résultats et les prélèvements que l'on a faits, notamment avec toute la série d'observations des résidus, comment ils se présentent, où est-ce qu'ils se situent, on peut voir que dans la tombe, les cendres et les os, une fois calcinés, ont été jetés au fond de la fosse, puis une libation avec cette ethnokoé a été faite, donc un mélange de graisse, de résine et de pain d'abeille. Et cette ethnokoé a ensuite été probablement enfoncée dans du sable ou dans de la terre, qui a laissé la trace ici, dans une position verticale en l'air, qui ne peut pas tenir debout si elle n'est pas calée. Et ensuite, une fois qu'elle était dans cette position, une deuxième libation a été faite, et nous avons eu de la chance, car la composition chimique de ces résidus retrouvés sur les parois extérieures correspond exactement à la composition chimique du contenu de cette deuxième ethnokoé. Donc en fait, on peut dire qu'une fois que celle-ci a été placée, une deuxième libation a été faite par-dessus, et ensuite cette ethnokoé a été déposée à côté verticalement, parce qu'on voit bien le contenu qui en a pris la forme sous forme d'un disque, d'une galette retrouvée au fond. Et puis ensuite, une dernière libation a été faite par cette troisième ethnokoé qui, elle, contenait un mélange de cire d'abeille, de graisse animale végétale chauffée, de résine de pinacée, un peu de pois, de cire végétale et une autre oléorésine très odorante tirée du styrax, donc le liquide en barre, qui a une odeur fortement balsamique. Donc on voit dans cette tombe une succession de libations. Donc par la chimie, en faisant correctement les prélèvements, on arrive à reconstituer une série de gestes. Et on peut dire que cette tombe a fait l'objet de trois libations avec trois matériaux différents. Un tout à fait symbolique, contenant du pain d'abeille. Une deuxième avec donc peut-être des extraits de feuillus et des marqueurs de vin. Et enfin, une troisième avec un matériau très fortement odorant, constitué de pois et de baume. Donc voilà pour cette dernière tombe. Et je finirai par des réattributions d'objets. Donc nous sommes en Sardaigne, sur le site de Cabras, un site lacustre. C'était une fouille de puits, donc avec un milieu totalement anaérobie qui était très propice à la conservation de la matière organique. Et nous avons étudié une douzaine d'objets, dont ces trois ustensiles qui étaient considérés comme des lampes avec des résidus noirs dedans à l'intérieur. Vous voyez les résidus, il suffisait de les gratter avec un scalpel, quelques milligrammes, pour en extraire la matière organique suivante et on obtient le chromatogramme avec les acides gras, les stérols et ce qu'il y a d'original, ce sont les acides biliaires. Et alors ces acides-là, où est-ce qu'ils se retrouvent? Ils se retrouvent uniquement dans les animaux, dans une zone très précise du système digestif, à savoir la vésicule biliaire, comme son nom l'indique, une partie du foie, la première partie de l'intestin. Et ensuite, ces acides sont complètement recyclés, réabsorbés, et ils retournent dans le système vésicule biliaire foie. Donc, si l'on en retrouve dans les échantillons archéologiques, ça veut dire qu'on a affaire à ce type d'organe, soit le foie, soit le début de l'appareil intestinal. Et donc, probablement, cet objet n'est pas une lampe, mais a été en contact avec des viscères, le foie d'un animal, on ne peut pas dire lequel, mais là c'est un peu anachronique, mais pourquoi pas, cette lampe serait un objet utilisé par un aruspice pour découper un foie ou alors en recueillir le liquide. Donc voilà, et pour conclure, donc au niveau bibliographique, vous pouvez retrouver un grand nombre d'articles d'archéologie, de chimie, mais aussi de botanique dans les deux ouvrages qui sont édités par Dominique Frère et Laurent Hugo, donc sur l'archéologie des parfums, l'archéologie des odeurs. Et puis, donc, toutes ces données, normalement, prochainement, seront disponibles en ligne pour pouvoir être utilisées par tous les archéologues et historiens et botanistes, avec toutes les données chimistes sur le site de l'ENS notamment. Alors pourquoi publier les données brutes ? Parce qu'à l'heure actuelle, on les interprète d'une certaine façon. Dans 20 ans, les chimistes, les botanistes auront avancé, le savoir aura accru et on pourra peut-être réinterpréter les résultats d'une autre façon. C'est pour ça que les études de Chevreul en 1848 étaient très détaillées, très bien publiées. On peut les réinterpréter, voir quelles sont les conclusions justes et les conclusions à modifier. Donc dans notre travail, nous faisons exactement la même chose. Les conclusions sont faites en l'état des connaissances actuelles, mais peut-être que dans 20 ans, elles pourront être un petit peu différentes. Et puis tout un tableau synthétique sera publié avec toute la série des 250 échantillons étudiés, les contextes, les formes, la méthode de prélèvement, le type d'analyse ou de purification effectuée, les marqueurs chimiques et l'interprétation que l'on en fait en confrontant les données chimistes et botaniques à l'heure actuelle. Donc, en conclusion de toutes ces analyses, on voit que l'exploitation de cette nouvelle source de données, les molécules chimiques, qui sont invisibles mais quand même présentes en très faible quantité, permettent d'apporter des résultats nouveaux et parfois de réinterpréter les hypothèses archéologiques. Donc, ces molécules peuvent être conservées dans différents types de vases, de nature minérale, en céramique, en pierre, en verre, en métal, fermé, ouvert. On peut autant réaliser les expériences sur des vases entiers ou des fragments de vases. Et les analyses chimiques permettent de remonter à l'origine biologique, donc végétale ou animale, par l'interprétation d'associations de molécules. Donc plus en travaillant sur une seule molécule, comme par exemple l'acide tartrique pour le vin, mais en travaillant sur des associations de 20 ou 30 molécules pour identifier des genres botaniques, voire des espèces. De plus, donc on peut préciser un certain nombre d'actions anthropiques et préciser des étapes dans le mode d'élaboration des baumes, des parfums et de tout ce que l'on peut retrouver dans les vases. Et puis, donc, nous l'avons vu, un certain nombre d'hypothèses sont remises en cause, notamment dans un article que l'on publie en ce moment avec Dominique Frère, dont il vous parlera sur le problème des cruches ascoïdes, où l'on croyait qu'étaient faites des libations de vin, mais en fait, on retrouve exactement la même constitution chimique des résidus que pour les autres vases à parfum. Et puis, on peut réattribuer un certain nombre d'objets. Donc, ce que l'on croyait être des lampes ou des brûles-encens seraient en fait des ustensiles utilisés lors de sacrifices. Et en faisant correctement, en réfléchissant au moment du prélèvement, comment faire les prélèvements, où les faire, et en essayant de créer, de replacer les objets dans leur contexte, on peut éventuellement, mais ça c'est assez rare, reconstituer des petites scènes, des petites scènes cultuelles. Et concernant les parfums, donc je conclurai là-dessus, où on identifie essentiellement les bases, c'est-à-dire les graisses, les huiles, les cires. Parfois, si la matière organique est bien conservée, on peut remonter à l'huile d'olive, l'huile de sésame ou l'huile de benne, par exemple. Les notes de parfum n'ont jamais été les notes propres au parfum, donc à savoir les notes de tête, de cœur et de fond. Donc les notes de tête sont les notes les plus volatiles, sont souvent perdues, sauf dans le cas que l'on a vu du camphre, qui est un cas vraiment exceptionnel. Les notes de cœur aussi sont souvent perdues, ne reste que les résines, les baumes, donc tout ce qui est molécules à odeur assez lourde. Donc, comme pour les autres types d'échantillons, pour les parfums, on peut avoir un certain nombre d'indices sur la façon dont est fabriqué le parfum, par décoction de plantes, par enfleurage. Le problème se pose de la distillation. Et en identifiant les différentes plantes, donc vous avez vu tout à l'heure l'exemple du camphre, le problème qu'il pose, quelle est la source ? Est-ce un camphrier qui provient de Chine ou d'Asie du Sud-Est ? Le problème mondéciste, on reste dans le domaine méditerranéen, mais quand on passe à l'encens ou à la cire, on est toujours tout de suite dans le domaine de l'océan Indien, avec quelques espèces aussi qui poussent en Asie du Sud-Est, en Indonésie ou un peu plus au nord. Donc se pose réellement la question maintenant des relations entre tout le bassin méditerranéen et l'océan Indien. Donc, dans un article de Salle en 1996, il a pu montrer qu'un certain nombre d'attestations montrent qu'à partir de la deuxième moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ, il y a vraiment des relations entre le bassin méditerranéen et l'océan Indien. Mais quand on se situe avant, on est à l'état d'hypothèse et le tout sera d'élucider qu'est-ce qui se passe au niveau de la péninsule arabique. Notamment, est-ce que le domaine de l'Arabie pétrée tourné vers le bassin méditerranéen, est-ce que ce royaume-là est en échange avec le domaine de l'Arabie heureuse? Si les deux domaines n'ont aucune relation, auquel cas on ne peut pas envisager de sources provenant de l'océan Indien et de l'Asie du Sud-Est. Par contre, s'il y a des échanges caravaniers entre le sud et le nord de l'Arabie, là du coup, ça nous ouvre la porte à tout l'océan Indien, l'Asie du Sud-Est, voire même la Chine en échange interne. Voilà, je vous remercie.